France Musique.
Émilie Munera, les grands entretiens. France Musique.
Je suis Alexandre Tarot, pianiste, insomniaque. Et je n'ai pas d'âge.
Il y a une œuvre qui vous a éloigné des scènes. Ce sont les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Elles vous ont éloigné des scènes puisque vous avez eu besoin de les jouer, de les travailler, de prendre du temps pour jouer cette œuvre. Il y a un jeune claveciniste, Man Esfahani, qui vient d'enregistrer cette œuvre et qui je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et il dit, je n'ai pas la moindre notion de ce que sont les variations Goldberg et je trouve irritant l'essentiel du bavardage cosmologique et numérologique autour d'elles. Est-ce que c'est trop?
Il a raison.
Est-ce qu'on se prend trop la tête autour de cette œuvre?
Bah, je pense que Bach, il faut l'écouter et ne pas trop parler. Après, on découvre le nombre de livres qui ont été consacrés à cette œuvre, c'est fascinant. Et je les ai lus, ces livres, parce que j'ai voulu faire un travail très complet. En effet, je me suis arrêté une année sans concert pour les variations Goldberg. Une année dans laquelle j'ai fait bien d'autres choses. Aussi une année qui était vertigineuse, parce que quand on s'arrête, ça se passe pas du tout comme on le souhaitait. D'abord, quand on s'arrête, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver la scène. Et puis, quand on s'arrête, la vie, on tombe malade, évidemment. Ça dure un mois, deux mois. Et ensuite, les choses ne se passent pas du tout comme on les attendait. Et ma vie a beaucoup changé pendant cette année sabbatique. Ensuite, j'étais quand même heureux d'avoir pu donner tous ces mois aux variations Goldberg. Et aussi pour pouvoir leur donner de l'espace. C'est-à-dire se lever le matin et dire, mais aujourd'hui, je vais travailler deux mesures. Deux mesures. Mais quel plaisir! Mais vous pouvez pas savoir. C'était pas une discipline que je me donnais. C'était du plaisir de prendre deux mesures de Bach et de leur dire, voilà, je vous donne toute ma journée. Mais c'est extraordinaire de travailler deux mesures de Bach pendant une journée. Et je n'en ai pas l'occasion aujourd'hui. Parce qu'il y a le rythme des concerts, tous mes projets. Et puis, voilà, travailler deux mesures de Bach aujourd'hui, c'est pas possible. Mais pendant cette année sabbatique, c'était il y a 6 ans, j'ai pu faire ça. Et c'était... Alors oui, c'était ce qu'appellerait ce jeune claveciniste une prise de tête. Mais après, une fois qu'on a assimilé, travaillé énormément, on n'a jamais assez travaillé les variations Goldberg. Mais quand on fait quasiment que ça pendant un an, on peut dire que c'est quand même du travail sérieux. Après, quand on rentre sur scène, il faut tout oublier. Et puis, c'était assez pénible quand le disque est sorti, donc il y a un an, assez pénible d'aller d'un plateau radio à un plateau télévision et de parler des variations Goldberg. Je me sentais toujours à côté. Les mots n'ont pas de... Je trouve que les mots sont inconsistants. D'abord, je pense qu'un musicien, un interprète ne sait pas parler. Je parle, alors là on parle, d'accord, mais quand je parle de musique, mes mots sont insuffisants. Je suis pas sur cette terre pour parler de musique.
Il y a quelque chose qui revient dans la bouche de tous les interprètes quand ils parlent de Jean-Sébastien Bach et ça m'a toujours questionnée avec son Tarot, c'est qu'il parle toujours d'humilité.
Je pense que Bach est lui-même humble et
mais Mozart aussi
il
sûrement.
Il nous comprend. Non parce que Mozart, il nous dit à nous interprètes, il nous dit reste enfant, va chercher le petit coin de pureté qui reste. Il y a toujours un petit coin de pureté chez nous. Hein. Même les plus affreux des hommes, ils restent probablement quelque part chez eux un éclat de leur enfance. C'est ce qu'il nous dit, Mozart. C'est quand on rentre sur scène et qu'on joue une de ses œuvres, il nous demande de retrouver la grâce. Mais il n'est pas moins profond que Bach. Enfin, on ne va pas mettre une hiérarchie dans les géants de la musique. Bach, il est là, il nous regarde, encore une fois, avec beaucoup d'humilité. Il nous comprend. Je voulais pas parler de Bach. Je me retrouve à parler de Bach, mais avec mes mots maladroits, avec des mots d'interprète. Mais ce qui se passe quand on joue Bach, c'est qu'on n'est pas seul. C'est ça. C'est qu'on n'est pas seul, qu'il est là avec nous, en fait. Ne pas être seul, c'est être consolé. Ne pas être seul, c'est avoir confiance. Et ne pas être seul, c'est pouvoir être totalement disponible aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se tient la main. Et quand on joue les variations Goldberg, et ça, j'en ai parlé avec d'autres interprètes des variations Goldberg, tous ont vécu cette expérience, on joue tous ensemble. Et sur scène, il arrive un moment où on ne joue plus, en fait, on se laisse aller. Mais je veux pas trop en dire, parce que... c'est une expérience personnelle aussi.
On va les écouter. Alors, quelle variation voulez-vous écouter? Comme ça, on va l'écouter.
Pareil, aucune hiérarchie dans ces variations.
Ah non, en fait, on est fort,
Alexandre Tarot. Mais la numéro 25 est peut-être
la
25, celle
la plus longue.
D'abord la plus longue.
Ouais.
Et puis celle où il va le plus loin dans la science de l'harmonie, du contrepoint, du chromatisme. À certains moments, on pourrait... croire que cette œuvre a été écrite au XXe siècle, c'est fou. Et puis, dans la dernière partie de ce cycle qui dure, si on fait toutes les reprises, presque une heure et demie. Donc un cycle qui est très long, mais qui passe vite en même temps. Enfin, il nous fait perdre notre rapport au temps, encore une fois, tous ensemble. Donc on est tous là dans cette émotion, cette sensation de communion, où on vit les mêmes choses au même moment. Et Bach, là, dans la 25e variation, on a l'impression d'être vraiment au cœur de l'œuvre. Et après cette variation, on va repartir, rejaillir. Mais cette variation arrête véritablement le temps. Alors là, on va l'isoler. Mais après avoir vécu les 24 premières variations, le public et le musicien sur scène, qu'il soit, je sais pas, organiste, claveciniste ou pianiste, ou un quatuor à cordes, mais le ou les interprètes des variations Goldberg s'arrêtent. Il faut surtout pas faire grand chose. Il faut surtout pas interpréter dans le sens vouloir montrer des choses. Surtout pas. Être le plus simple possible. C'est là que Bach se délivre le mieux. Thank you.
De Bach à Chopin, il n'y a qu'un pas, Alexandre Tarot, puisqu'on sait qu'il aimait beaucoup la musique de Jean-Sébastien Bach. Chopin vous accompagne depuis votre enfance. Il y a eu plusieurs disques, les préludes, un disque important, mais ce n'était pas le premier, il me semble.
J'ai commencé un premier disque Chopin avec l'intégrale des valses, parce que pareil, je voulais aller lentement.
Et qui n'est pas si joué non plus d'ailleurs, voilà. L'intégrale des valses, c'est en général, les pianistes n'aiment pas trop.
C'est très difficile.
Pour les enfants,
beaucoup
oui.
Plus difficile de jouer l'intégrale des valses de Chopin que l'intégrale des préludes.
J'imagine.
Contrairement aux idées reçues. Parce que les préludes demandent certes plus de virtuosité, et puis il faut passer de l'un à l'autre. C'est très rapide de passer d'un climat à l'autre. Mais la virtuosité, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il y a de plus facile à donner sur scène. Hein, jouer rapidement et fortissimo, faut travailler beaucoup, mais c'est pas très difficile. Alors que jouer presque 20 valses de Chopin sur scène, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ne parlons pas des sonates de Mozart ou de la musique de Bach, où on est vraiment à nu, ou des musiques qui demandent beaucoup plus que de la virtuosité facile, enfin de la virtuosité gratuite. Donc dans les préludes de Chopin, il n'y a pas de la virtuosité gratuite, mais disons que c'est une œuvre... qui est moins, à mon sens, moins difficile que...
Et pourtant, c'est une œuvre peut-être la plus intime aussi du Chopin, la plus dépouillée.
Et la plus violente. Il y a tout Chopin dans les préludes. Parce qu'avec ces petits bijoux de parfois 30 secondes, hein, les préludes de Chopin ne durent que 30 minutes à peu près, ou 35, je crois. Ça passe vite. Et là-dedans, il y a ce premier jet, qui est le premier prélude en ut majeur, qui est très court, mais qui ouvre, qui est plein d'espoir. Et puis, pof, on arrive dans le deuxième, qui est déjà plein de désespoir. Et on passe d'un climat à l'autre, tous ces climats qui ont fait la vie de Chopin, c'est-à-dire l'éloignement, la détestation de soi-même, les ruptures amoureuses, enfin, beaucoup de choses, la colère, l'envie du succès. La violence, la guerre, les voyages, la filiation avec les musiciens baroques, avec les musiciens italiens du bel canto, l'inspiration à travers les chanteurs d'opéra. C'est beaucoup de choses qui font qu'on a tout Chopin en 24 minuscules pièces.
Émilie Munera, Les Grands Entretiens, France Musique.
Vous m'étonnez parce que vous citez deux pianistes chez Chopin, qui sont Vlado Perlmutter et Rachmaninoff, et je trouve ce choix assez étonnant, parce que vous n'avez pas choisi un pianiste comme Sanson François, qui le joue de manière très rapide, très fougueuse, très romantique, mais plutôt des pianistes qui jouent sur la couleur. Est-ce que rechercher cette couleur, d'ailleurs comme ils l'ont fait pour Perlmutter chez Ravel, est-ce que rechercher la couleur chez Chopin, Alexandre Tarot, c'est aussi un enjeu?
Peut-être
vous aimez aussi Sanson-François,
d'ailleurs. Ouais, quand vous parlez de Rachmaninoff et de Vlado Perlmutter, alors il y a d'autres grands chopiniens, c'est surtout plus que des maîtres de la couleur, à mon avis, c'est des maîtres du chant. C'est des personnes qui ont su chanter Chopin et qui ont un chant qui ne ressemble à aucun autre. comme certains chanteurs ou certaines chanteuses d'opéra, alors une voix va m'émouvoir et ne pas vous émouvoir du tout, ou le contraire. On a un rapport très intime à une voix humaine. C'est pareil chez Chopin. Il y a des pianistes qui vont tout de suite nous emmener au cœur de Chopin à travers un chant qui est leur propre chant, des pianistes qui assument totalement leur main qui se glisse dans le clavier de Chopin. Et puis d'autres vont nous sembler hermétiques, mais parfois ça change aussi au cours de la vie. Quand j'étais jeune, je trouvais que le Chopin de Claudio Arrau était inintéressant.
Pourtant, et maintenant, un des plus grands interprètes.
Je trouve que c'est l'un des plus grands chopiniens de l'histoire, et ce son chaud, très large, malgré ses petites mains, et c'était un petit homme, mais tellement généreux, et qui avait un Chopin assez sage, très, très doux comme ça, et qui n'empêchait pas une certaine violence, mais voilà, encore un autre grand chopinien. Pour revenir à Rachmaninoff, c'est pour moi le plus grand pianiste de l'histoire, dans ceux qui nous ont laissé des disques. Et malgré ses pattes de géant et son physique de bûcheron russe, il jouait de manière assez perlée, assez transparente. Hein, comme quoi, on a une vision des pianistes russes, des sortes de tanks. Non, pas du tout. Et il avait une grande noblesse du chant. Alors quand il joue Chopin, il joue avec des roubateaux, mais des roubateaux qui rentrent dans la mesure. Il y a toujours le dos droit.
Il ne fonce pas, hein, d'ailleurs, au niveau du tempo.
Il
ne
fonce pas. C'est un pianiste qui prend le temps de dire la musique. D'ailleurs, au temps de Chopin, on ne jouait pas du piano, on disait. Et Chopin, dans les premiers concerts, donc 1830, 1835, avant qu'il y ait la notion de jouer, et bien avant la notion d'interprétation qui arrive à la fin du 19e siècle finalement, puisque jusque-là, les pianistes sont tous des compositeurs et jouent leur propre œuvre. Donc ils n'interprètent pas. Mais la notion de jouer du piano, elle arrive après 1800, je ne suis pas musicologue, mais dans la fin de la décennie 1830-1840. Au départ, on dit. Moscheles dit un prélude, Chopin dit une valse, Liszt dit une paraphrase. C'est extraordinaire, on disait la musique. Et Rachmaninoff est peut-être le dernier de ces grands compositeurs pianistes et improvisateurs, d'ailleurs il improvisait très bien. C'est peut-être le dernier monstre sacré de toute cette famille-là. Et il y a chez lui, quand je l'écoute jouer, je ressens cette envie de dire, de prononcer la musique.
Thank you.
fois, il a été un peu obligé aussi de devoir jouer Rachmaninov ou de devoir dire, puisque quand il s'est retrouvé aux États-Unis, fallait qu'il gagne sa vie. Donc, fallait qu'il donne des récitals. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, il n'a pas composé parce que ça rapporterait pas assez pour faire vivre sa famille. Il a dû jouer et jouer et interpréter.
Oui, et on lui demandait tout le temps le deuxième concerto de Rachmaninov.
Oui, en plus.
Et ouais, cette œuvre qui a marqué sa vie.
C'est un retour à la vie, cette œuvre, finalement.
Un retour à la vie, c'est la fin de cette gigantesque dépression qui l'empêche de composer, mais bon, il est encore en Russie, il peut quand même donner des concerts. Puis à travers quand même l'écriture de ce concerto, ce n'est pas qu'à travers la psychanalyse sous hypnose, mais à mon avis aussi grâce à l'écriture de ce concerto, il se sort, tant bien que mal, de cette dépression. Donc oui, c'est un retour à la vie et une œuvre qui coupe en deux, qui en plus est écrite en 1900, donc symboliquement, ce n'est pas rien. Parce que cette date-là, cette année-là, parce que c'est la fin de sa dépression, parce qu'il va partir après, parce que le public et les organisateurs de concerts décident presque instantanément que c'est un chef-d'œuvre. C'est quasi unique dans l'histoire de la musique qu'on décide que cette œuvre est un chef-d'œuvre et elle le marque d'un saut. Et jusqu'à sa mort, c'est cette œuvre qu'on va demander et pas d'autres. Donc il va se battre aussi, notamment aux États-Unis, pour jouer d'autres œuvres. Le troisième concerto va avoir beaucoup de succès, mais quand même, ça vient plus tard. Et il aura du mal à jouer d'autres concertos ou d'autres œuvres que le deuxième concerto.
Dans le cas de Rachmaninov, est-ce que vous comprenez que c'est une musique viscérale? C'est une musique des tripes, écrite par quelqu'un.
Une musique des tripes.
Et est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger certaines personnes, certains auditeurs, qui ont l'impression qu'on leur déverse trop de choses?
Ben oui, mais Ravel, c'est une musique des tripes aussi. Hein. Moi, quand j'écoute les variations Goldberg, je pleure. Et quand j'écoute Rachmaninov, je pleure pas. J'ai le vertige. Chacun a son Rachmaninov, puis après, chacun dit ce qu'il a envie de dire, je sais pas, moi. Pour moi, Rachmaninov n'est pas le compositeur le plus romantique de l'histoire, non, ce n'est pas qu'un compositeur romantique, c'est pas un compositeur sentimental. C'est pas parce qu'on parle de sentiment qu'on est sentimental. Puis derrière des thèmes qui peuvent nous paraître très romantiques, il y a une science de l'orchestration, une science de l'écriture, du jeu pianistique, même. Avec beaucoup de choses qu'il a créées aussi. Il ne faut pas oublier que Rachmaninov a ouvert des voies. Par exemple, avec ce deuxième concerto, dans la conception du concerto, dans l'architecture, dans l'orchestration, dans ce qu'il a proposé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à certains musiciens de l'orchestre, dans l'écriture de la partie soliste. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est aussi un chef-d'œuvre parce qu'il a, il a donné la voix à d'autres concertos.
Le deuxième concerto de Rachmaninov par Alexandre Tarot, accompagné par l'orchestre de Liverpool et Alexander Vedernikov. C'est le tout dernier disque d'Alexandre Tarot, sorti la semaine dernière. Alexandre Tarot que l'on retrouve demain dans les grands entretiens de France Musique pour un dernier volet où on va parler notamment de son amour pour la chanson française. Merci à l'équipe du jour, Gilles Blanchard, Cédric Chatelus, Céline Tronouvelle et Georges Thau.
À réécouter sur francemusique.fr.